Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts où je vais aborder différents thèmes autour de la conscience et vous transmettre au mieux notre philosophie de la vie en vous partageant l'enseignement que nous diffusons au sein de notre association Natural Trip. Alors l'idée des podcasts est de vous parler de ce que j'ai compris au fil des années à travers ma pratique de thérapeute et mon expérience du groupe, de sortir des idées toutes faites et parfois un petit peu simplistes autour du développement personnel, de sortir du binaire pour permettre à la pensée, à la conscience de s'ouvrir, se déployer afin de se réinventer. Je m'appelle Vanessa et je vis en Guadeloupe depuis 25 ans, où j'ai créé l'association Natural Trip en 2006, sur la région de la Basse-Terre. Les enseignements que je propose sont destinés aux femmes, aux hommes de tout horizon et de tout âge, qui sont dans un questionnement sur eux-mêmes, leur vie, leurs relations et leur santé. Je les accompagne à travers des ateliers, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des stages autour de divers thèmes comme l'enfant intérieur, le couple, la psychogénéalogie et bien d'autres, et tout cela dans un cadre en pleine nature. Ce que nous enseignons à Natural Trip, c'est avant tout le fonctionnement de l'être humain dans sa globalité. Et le travail se fait principalement en groupe, que je trouve extrêmement puissant. Pour ce premier podcast, je voudrais vous présenter une autre version de l'histoire officielle et la place de la femme dans la société, pour commencer à se questionner différemment afin de mieux appréhender nos constructions et s'interroger sur nos origines et nos blessures. Quand j'ai découvert cette autre version où la femme était sacralisée, qu'elle était cyclique, il y a comme une mémoire qui s'est réveillée en moi. Et là, j'ai commencé à plonger dans ce monde mystérieux du féminin sacré. J'ai commencé à lire, à découvrir des autrices telles que Paul Salomon, Merlin Stone, Clarissa Pinkola Estes, Miranda Gray, Jean-Chinola Bolène, Françoise Gange, Gloria Steinem, Starak et bien d'autres. Et tout ça m'a passionnée, ça m'a réveillée, quelque chose qui sommeillait en moi. Et de là a commencé la mise en place, il y a 14 ans maintenant, des premiers cercles de femmes en Guadeloupe, afin de mettre en lumière tout ce savoir tapis dans l'ombre. Donc à travers ces podcasts, je vais vous partager le fruit de mon travail, une compilation de mes recherches, afin de nourrir votre réflexion et sortir des chemins tout faits de l'histoire officielle. Dans les années 60-70, les mouvements féministes qui ont pris naissance aux États-Unis ont mis en théorie qu'avant le néolithique, qui correspond au commencement de la sédentarisation des populations, avec les premières cultures agricoles, soit à peu près entre moins 10 000 à moins 30 000 avant notre époque actuelle, il a existé, en certains endroits du monde, une société matriarcale. Ces théories se sont fondées sur des statuettes découvertes en divers endroits qui représentent des femmes aux attributs sexuels surreprésentés, comme la Vénus de Willendorf. Quelques années plus tard, dans les années 80, avec la présence de plus en plus de femmes historiennes à tendance féministe, ces théories ont été soit remises en question par certaines, soit contrario confirmées. Ce que l'on peut en dire aujourd'hui, c'est que n'ayant pas de traces écrites de ces périodes, il est difficile de dire qui a raison et qui a tort. En revanche, le fait que de plus en plus de femmes exercent ces métiers d'historienne, d'anthropologue, cela nous permet de poser un regard différent, de proposer un autre point de vue où la femme n'est plus juste un objet d'échange entre clans et juste bonne à cueillir des feuilles et à procréer. C'est en observant les populations natives d'aujourd'hui qu'il est possible d'affirmer que les femmes ne se sont pas cantonnées à ce rôle qu'on retrouve dans les films où on la retrouve soumise et où son compagnon la tire par les cheveux pour la ramener dans la caverne. Et c'est aussi une histoire de bon sens, car lorsque les hommes partent pour plusieurs journées de chasse, celles et ceux qui restent au camp se doivent de devoir se défendre contre d'éventuels prédateurs ou en cas d'attaque d'autres clans. À travers l'histoire, nous pourrions compter donc deux civilisations, la civilisation de la coupe et la société de l'épée. La société de la coupe est une société qui gravite autour d'un divin féminin qui remonterait à la préhistoire. Des statues datant de 20 000, 10 000 et 6 500 ans avant Jésus-Christ l'attestent. Elles symbolisent une approche de la vie, à la fois généreuse et destructrice, reliée à la nature, ne se préoccupant ni de guerre ni de conquête. Les traces sont des inscriptions gravées sur des pierres ou des murs des cavernes. Sur la pierre, on peut trouver inscrits soit des triangles vulvaires, pointe en bas et fendus par une demi-bisectrice figurant le mont de Vénus et le haut de la vulve avec son incisure. De même, il semble évident que les représentations constituent également des manifestations de vénération de la sexualité féminine. Le triangle vulvaire porte du plaisir et porte de la vie. La femme appartient à un monde extraordinaire et mystérieux. Cette société du féminin sacré tourne autour des valeurs d'échange, dans une ambiance de respect et de confraternité ou de sororité, entre les différents éléments qui constituent la vie, le vivant. La nature y est respectée, vénérée, comme étant la création de la mère aimante et nourricière. Cette culture de la déesse favorise les arts, la musique, la danse et vénère la beauté. Les temples sont des lieux où l'on pratique l'union sacrée du principe féminin et masculin. La notion de péché n'existe pas. À cette époque, la femme est agricultrice, potière, musicienne, danseuse. La grande prêtresse gère l'économie, les affaires de la cité, entourée d'un conseil d'anciens. Le mariage patriarcal, avec bien évidemment la notion de dominant et dominé, n'existe pas encore et on a tout lieu de croire que le couple est libre, non nécessairement stable. L'homme et la femme pratiquent une union libre et furtive, c'est-à-dire que l'homme peut rendre visite à la femme et ne séjourne pas au foyer de celle-ci. Il est quant à lui rattaché au foyer de sa mère et de ses sœurs, où il tient un rôle important auprès des enfants de celle-ci. Cette organisation où c'est non le père mais l'oncle maternel qui est important pour les enfants, on peut la retrouver en Afrique du Nord ou chez les Mosso qui sont une des dernières sociétés matriarcales qui sont perchées dans les montagnes de l'Himalaya. Le père géniteur n'est pas responsable de ses enfants, en tout cas pas nécessairement. Il peut s'en occuper, payer pour eux un certain nombre de choses, mais n'y est pas obligé. C'est uniquement vis-à-vis de ses neveux et nièces qu'il joue le rôle important de modèle masculin. Au fil des temps, les civilisations préhistoriques progressent, et là on arrive au néolithique, à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle aussi l'âge de la pierre polie. L'agriculture et l'élevage se développent et l'art s'affirme. Le pouvoir de la matrice reste prépondérant, et c'est la mère et non le père qui dirige la famille, et la transmission du nom et des biens demeure matrilinéaire. Il existe également en Bulgarie la grotte d'Utroba, qui est connue sous le nom de grotte de l'utérus, qui est un sanctuaire de grottes préhistoriques. Cette grotte ressemble à une vulve humaine qui aurait été sculptée à peu près autour du 9e, 10e siècle avant l'ère chrétienne et qui témoigne de la vénération encore présente de la grande déesse. Les historiens pensent qu'elle était autrefois utilisée comme un sanctuaire de la fertilité. La preuve, c'est qu'à 22 mètres de profondeur se trouve un autel représentant le col utérin ou l'utérus de la déesse. À midi, la lumière pénètre la grotte à partir d'une ouverture au plafond, projetant l'image d'un phallus au sol. Lorsque le soleil est au bon angle, en février ou en mars, au niveau des équinoxes, le phallus s'allonge pour atteindre l'autel ou le col, fertilisant symboliquement l'utérus de la déesse avant les semis du printemps. C'est complètement fascinant, vous pouvez aller voir ça sur internet. Des statues vont être dressées, édifiées pour les honorer et organiser des fêtes pour les remercier ou les implorer. Du Moyen-Orient jusqu'à la Méditerranée, des civilisations matriarcales florissantes s'établissent, dont chacune a ses déesses. On a Lakshmi, puis Shakti en Inde. En Mésopotamie, on a Astarté, puis Ishtar à Babylone. En Égypte, on peut retrouver Hathor, puis Isis. Et en Crète, Cybèle. Ainsi, la déesse est la première manifestation du concept de divinité. Pendant 35 000 ans au moins, la déesse a été l'unique et la suprême divinité de l'espèce humaine. Les dieux mâles n'apparaîtront, comme nous le verrons, qu'entre 6000 ans et 2000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite va apparaître la société de l'épée. Bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que l'homme a pris le pouvoir. Cela s'est fait dans le courant du néolithique, entre 6000 et 3000 avant Jésus-Christ. L'homme va commencer à découvrir son rôle dans la procréation. Le lien entre acte sexuel et conception n'a pas toujours été perçu et que, par conséquent, la filiation du père n'existait pas encore. Durant très longtemps, les humains pensaient que la lune enfantait la femme. la conscience que l'homme joue un rôle dans le processus de procréation sera devenue avec la sédentarisation et l'agriculture, et tout particulièrement avec la domestication des premiers animaux. Et c'est en les observant que les humains auraient compris le lien entre l'acte sexuel et la procréation. À partir de là, les hommes auraient commencé à défaire les systèmes matrilinéaires. Progressivement, le couple monogame remplace l'amour libre et la polygamie. La notion de paternité apparaît. L'homme se met à graver et à sculpter dans la pierre des phallus érigés avec la même frénésie qu'il avait fait pour la vulve. Alors surtout apparaît la notion de paternité et se fonde l'autorité du père qui progressivement l'emportera sur celle de la mère. Le mariage patriarcal est sans doute l'arme la plus apte à endiguer la sexualité des femmes. Les hommes commencèrent par leur adjoindre un époux, puis ils donnèrent la prépondérance à cet époux. Et enfin, ils décrétèrent qu'il était l'unique Dieu, le seul créateur des êtres et de l'univers. Ainsi naquit Dieu le Père. Ainsi, l'homme se donnera le droit de la mépriser et donc de l'écraser. Ainsi, la femme se méprisera et donc s'inclinera. L'humanité quitte petit à petit la civilisation du calice, celle de la femme de la mère, celle qui donne la vie, pour entrer dans la civilisation de l'épée, celle du père guerrier, la civilisation où l'on prend la vie. Les hommes s'attaquèrent à tout ce qui donnait à la vie son autorité, à la femme son autorité, et d'abord à la déesse mère, symbole de la puissance féminine. Les nouvelles religions chrétiennes, judaïques et islamiques envahissent le culte de la déesse mère pour y instaurer des dieux patriarcaux. S'ensuit alors une longue période de répression, de violence, de viol, de réécriture des mythes, amputant l'humanité de son ancienne culture. Dans l'ensemble de la mythologie indo-européenne, les déesses furent plus ou moins contraintes de prendre mari, reflet de la société appelant à la monogamie, puis elles furent reléguées à la seconde place. Par la suite, il n'y aura plus de prêtresses, uniquement des prêtres, qui deviennent le dieu créateur, le père tout-puissant. La femme perd tout pouvoir et devient un être au service. Dans la Bible, Ève incarne même la perversité, la lascivité, le machiavélisme, l'imprudence et le manque de discernement. L'engloutissement de la déesse mère s'étale donc sur une longue période pendant laquelle certaines femmes maintiennent encore du pouvoir. C'est au Moyen-Âge réellement, lorsque clergé et royauté s'allient, donnant de plus en plus de place à l'Église, que les femmes perdent leur territoire et leur pouvoir. La chasse aux sorcières, le plus grand féminicide de l'humanité. À cette époque-là, environ 500 000 de femmes ont été exécutées pour sorcellerie, et tout ça du XVIe à peu près au XVIIe siècle en Europe. 85% des victimes étaient des femmes. Personnellement, j'ai jamais étudié ça dans mes cours d'histoire au lycée. On persécute à la fois les femmes qui vivent seules, sans se reproduire, et les guérisseuses qui permettent aux femmes de contrôler les naissances. Représentant une menace à la politique nataliste, elles sont bannies et associées au diable. La sorcière représente l'infanticide, celle qui fait du mal aux enfants, et les chasseurs de sorcières étaient terrifiés par ces femmes, pourtant de classe populaire, démunies, sans défense, tout cela parce qu'elles étaient détentrices d'un pouvoir et d'un savoir. Comme l'explique Mona Chollet dans Sorcières, la puissance invaincue des femmes, cette période correspond aussi à une confiscation de la médecine aux femmes. Jadis, elles étaient à la fois infirmières, médecins, sages-femmes. En éliminant les guérisseuses, on a perdu le rapport très particulier qu'elles avaient aux patients, laissant place au savoir rationnel, universitaire et patriarcal. Cette période est l'avènement d'un rapport très agressif à la fois aux hommes, aux femmes et à la nature. Les femmes sont caricaturées dans le domaine de l'émotion, de l'irrationnel, du naturel. Et de là également, on peut voir la vision impure de leur sang et des menstruations. Mona Chollet déplore le déni, toujours présent de nombreux historiens, qui n'admettent pas que la chasse aux sorcières a tué tant de femmes juste parce qu'elles étaient des femmes et qu'il s'agit en fait d'un crime de masse misogyne. À partir du XXe siècle, la voix des femmes commence à se faire entendre. En 1912, dans la capitale britannique, les suffragettes veulent faire entendre leur voix dans une société qui ne leur accorde aucune attention. Elles sont alors lancées dans une action qui prend des allures de guérilla avec des lignes télégraphiques arrachées, des boîtes aux lettres publiques dynamitées, des magasins cailloutés. 1944, droit de vote des femmes en France. 13 juillet 65, les députés français, adopter la loi sur la réforme des régimes matrimoniaux, rendant effective la capacité juridique de la femme mariée. Depuis, celle-ci peut ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans avoir besoin du consentement marital. 1967, législation de la prescription libre de la pilule contraceptive en France. 1969, révolution sexuelle aux États-Unis et en Europe, l'amour libre, reconnaissance des sexualités non procréatrices et non conjugales. Mobilisation pour l'émancipation sexuelle des femmes et l'égalité des sexes. La figure de la sorcière est réhabilitée à travers l'émergence de plusieurs mouvements. On va retrouver la Wicca, qui est une spiritualité issue de la magie originelle et naturelle, qui a été remise au goût du jour au XXe siècle. Elle a été reconnue comme une religion aux États-Unis et elle prône l'harmonie et le respect de la nature en incluant des éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme. L'écoféminisme est aussi un courant qui a été né de la conjonction des pensées féministes et de l'écologie et qui vise à redonner des droits aux femmes et à la planète. Et là, on va redécouvrir les premières activistes. En 1974, l'archéologue Maria Kimboutas met à jour des statues de la grande déesse datant du néolithique lors d'une fouille dans les Balkans qui va révolutionner l'histoire et l'archéologie. En 1976, l'essai de l'historienne de l'art Merlin Stone, qui a écrit « Quand Dieu était la femme », est une véritable exploration archéologique dans le monde de la déesse. 1975, la loi Veil dépénalise l'avortement en France. Au XXIe siècle, montée de la domination sexuelle dans l'industrie de la beauté et du sexe. En 2007, aux États-Unis, Tarana Burke lance le MeToo Movement en soutien aux femmes victimes d'agressions dans les quartiers pauvres. Ce mouvement prône la sororité résiliente, l'écoute bienveillante des femmes pour transcender leur statut de victime, résister aux oppressions, reprendre le pouvoir de leur existence. En 2017, ce mouvement MeToo est repris par les actrices hollywoodiennes en rébellion contre le système de domination sexuelle qui sévit encore dans l'industrie à fantasmes qu'est Hollywood. Aujourd'hui, nous sommes invités à guérir de ces blessures, femmes et hommes. Cette évolution ou guérison appelle une certaine vigilance. Que ces sociétés matriarcales aient dominé le monde à une époque n'a au final que peu d'importance. Car l'idée n'est pas de dire qu'un monde dominé par les femmes ou plutôt par les hommes est meilleur, car des abus existent des deux côtés. Encore une fois, l'idée n'est pas de savoir qui a tort ou raison, mais plutôt de réaliser qu'à travers les âges et aujourd'hui encore, des systèmes restent minoritaires, existent et nous invitent à poser un autre regard sur nos modes de fonctionnement, en s'interrogeant sur ce que nous désirons voir advenir, en s'inspirant de ce qui a été fait et sans chercher à répliquer à l'identique des systèmes qui ne sont plus forcément adaptés à nos vies aujourd'hui. L'enjeu de la femme et de l'homme du troisième millénaire est de sortir l'humanité de sa logique binaire et permettre, enfin, d'incarner et de vivre le « et » plutôt que le « ou », de s'allier plutôt que se séparer. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ce premier épisode vous a plu et que cette autre version de l'histoire a réveillé quelque chose chez vous, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et si vous désirez en savoir plus sur le sujet, avoir des références de livres ou tout simplement suivre nos activités, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet naturaltrip-guadeloupe.com ou sur notre page Instagram naturaltrip-guadeloupe. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on l'aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-le nous en commentaire ou bien sur nos réseaux sociaux. On se retrouve donc très prochainement pour aborder un sujet qui me tient très à cœur, la notion d'archétype dans notre psyché et dans l'inconscient collectif. À tout bientôt.